Directeur général de la division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge est avec nous. Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Oui, merci. Merci encore une fois de nous joindre ici à, en ondes d'Envol pour parler de la situation dans les écoles. On sait que c'est un temps assez difficile et stressant pour plusieurs dans le domaine de l'enseignement. Et on est vraiment tous là pour essayer d'appuyer tous les enseignants et tous ceux qui sont ceux qui travaillent très fort dans ce domaine-là. Maintenant, juste pour commencer, parce que ça fait très longtemps que les écoles étaient toujours en code jaune. Maintenant, à partir de lundi, on a des nouvelles restrictions. On a appris ça vraiment le jeudi avant. Est-ce que les écoles, les divisions avaient été contactées d'avance pour les avertir qu'il y a des nouvelles restrictions allaient venir ou vous avez un peu appris ça en même temps que le reste des Manitobains?
On l'a appris deux jours auparavant que ça s'en venait, mais on n'avait pas eu les détails complets parce que c'était des choses qui étaient encore discutées au niveau du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé. Donc, certaines choses pour nous n'étaient pas tout à fait inconnues, mais d'autres sont arrivées là en même temps que les autres Manitobains les ont entendues.
Est-ce que vous saviez que plus de restrictions par rapport à la distanciation, le 2 mètres allait être implémenté?
Bien, on avait une idée de que le 2 mètres allait être demandé. Les discussions qu'on a eues avec la province, nous, c'était que le code orange indiquait que, au maximum de nos capacités de pouvoir l'offrir, et si nous ne pouvons pas l'offrir, on pouvait continuer avec les 1 mètre, mais en suivant le reste des protocoles de santé, c'est un défi pour la division scolaire d'atteindre 2 mètres dans ces écoles présentement parce que nos écoles sont bondées et souvent c'est un manque d'espace, mais c'est aussi lorsqu'on tombe à 2 mètres, c'est aussi un manque de personnel. Si on a une classe de 22, 23 qu'on divise en deux, ben ça nous prend un nouveau professeur ou un nouvel enseignant ou on fait un enseignement partagé. Donc un enseignant va être dans une salle de classe pendant une heure, son autre moitié de classe est dans l'autre salle, donc elle va de l'autre côté. Mais ça prend toujours quand même un auxiliaire pour surveiller les élèves. Alors, c'est en temps de pandémie, c'est encore plus difficile de recruter des gens et de trouver de l'espace.
Oui, et puis on avait parlé avec Jean Fontaine ce matin par rapport à ce manque d'espace-là parce que on avait vu un reportage sur Radio-Canada. Vous avez fait la mention que si on pouvait respecter le 2 mètres entre tous les élèves côté urbain, il nous manquait à peu près 68 salles de classe, je pense, c'est ce que vous aviez mentionné. Alors, c'est ça, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution quand on sait qu'il y a tellement un manque d'espace comme ça?
Bien, on s'est creusé la tête. Il y a des gens qui disent, vous n'avez pas regardé à cet endroit-là, cet endroit-là. Ce casse-tête-là est complexe. Il y a des endroits où est-ce que nous pourrions louer des locaux, emprunter des locaux, mais il faut penser que notre service de transport, 94% de nos élèves sont transportés. Il faut penser qu'on a près de 350 élèves un peu partout à Winnipeg qui sont dans les services de garde. Donc, quand on commence à changer les élèves d'une bâtisse à une autre, il faut aussi que la garderie suive, il faut que la conciergerie suive, il faut qu'il y ait des enseignants qui suivent. Les enseignants, d'après la loi scolaire, ont droit à des temps de pause. Lorsqu'ils sont dans deux écoles différentes, c'est très difficile et complexe pour nous d'offrir le temps de préparation, le temps de pause qu'ils ont besoin. Alors, c'est pas qu'on n'a pas regardé, qu'on n'a pas essayé des choses. Mm-hmm. On avait regardé l'université. Lorsque nous avons débuté notre année, on devait donner un plan. Le plan a été remis au ministère au mois d'août. Au mois d'août, on savait que l'Université Saint-Boniface était à distance pour un semestre. Il n'y avait aucune mention que l'université allait être un deuxième semestre aussi à distance. Donc, on aurait pu emprunter des locaux, mais si jamais l'université décidait qu'il retournait à temps complet, aurait fallu ramener tous ces élèves-là au même endroit ou dans un autre endroit. Alors, c'est plus complexe que les gens peuvent penser. On se dit, pourquoi vous ne faites pas une alternance pour les élèves du secondaire? On a regardé à l'alternance. Encore une fois, c'est pas une mauvaise idée. Ça nous prend quand même des locaux parce que au niveau secondaire, les élèves doivent quand même être présents 2 jours sur 5. C'est une obligation du ministère d'Éducation. Donc, en les ayant là 1 journée sur 2, on récupérait seulement la moitié des locaux. Et dans la moitié des locaux, ce que ça donnait pour nous, on pouvait à peine desservir précieusement pour les envoyer au collège Gabriel. Donc, on pouvait pas aidé ni Taché ni la CERT. Et puis, Christine L'Espérance allait combler complètement le CSLR avec ses 6, 7 et 8e années. Alors, on avait Précieux 5 qui était à 2 mètres pour les 6, 7, 8, mais pas les MA5. Même chose pour Christine L'Espérance. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on divise aussi les familles.
Mm.
Alors, c'est plein de choses comme ça. Il y a des familles qui nous appellent en disant, si vous les séparez, il faut absolument qu'on enfant le plus vieux arrive à la maison, soit avant le plus jeune, parce que c'est lui qui s'occupe de son petit frère ou de sa petite sœur. Alors, les gens ne voient pas toute la complexité qu'il y a derrière ça. Il y a des gens qui s'imaginent qu'on n'en a pas voulu aller dans cette direction-là, mais c'est vraiment pas le cas.
Est-ce qu'on a vu une grande demande côté des parents qui espèrent maintenant refaire venir leurs enfants à la maison?
Nous avons terminé notre sondage hier. Encore une fois, on est désolé, on a demandé aux parents là, à quelques jours de préavis. Mais comme vous avez dit tout tantôt, le ministère nous demandait est-ce que le code orange commence lundi avec une certaine flexibilité. Alors, on avait peu de temps pour demander aux parents. Nous avons sondé nos 3024 enfants, donc environ 1500 familles.
Mm-hmm.
Et puis, on a 188 élèves dont les parents ont demandé de demeurer à la maison pour avoir l'éducation à distance.
Wow! OK. Puis ça, ce serait pour le restant du semestre ou de l'année scolaire?
Non, c'est pour le temps du code orange.
Ah, OK. Parce que c'est ça. Parce qu'en ce moment, on ne sait jamais si on va peut-être, heureusement, si on espère, si tout va bien, retomber en code jaune. Puis là, à ce temps-là, on pourrait refaire venir les
Exactement.
Élèves.
Exactement.
D'accord, d'accord.
Et 188 élèves sur 13 écoles qui sont touchées dans le code orange, ça ne permet pas beaucoup de flexibilité au niveau local. Alors, si on prend une école qui a 10-12 élèves à la maison, c'est 10-12 élèves qui sont partagés entre la M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est pas un gros pourcentage qui ont choisi d'aller à la maison. Puis nous, on continue à dire à nos parents que, oui, il y a des cas de COVID qui éclatent. Souvent, ce sont des transmissions extérieures. Mais nos écoles et notre personnel font tout en leur pouvoir pour s'assurer de l'hygiène. Mm-hmm. Malheureusement, ce COVID-là, c'est moi, je dirais, c'est effectivement une épidémie, là, mais elle prend sa racine dans les sports intercités, dans les loisirs, dans les rassemblements familiaux, familiales, pardon. Alors, oui, à l'école, on en voit aussi parce que par la nature des choses, même si nous sommes en cohorte, les enfants ont des vies à l'extérieur.
Oui. Oui, tout à fait. Côté des enseignants, est-ce qu'on sait un peu comment eux se sentent dans tout ça? Je sais que c'est un temps stressant pour tout le monde, mais sachant qu'il y a peut-être des salles de classe qui se divisent en deux, puis un côté en personne, l'autre côté virtuel. Comment se sentent les enseignants avec tout ce changement?
Dans le moment, on n'a pas divisé les classes comme ça parce qu'on n'a pas l'espace pour le faire physique.
Okay.
Je dirais que de façon générale, nos enseignants font un excellent travail. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'anxiété, on ne se le cachera pas. Ce sont des enseignants qui ont des enfants devant eux, des élèves, ils veulent le meilleur, mais ils ont souvent leur propre famille aussi, ils ont leur mari, leurs enfants. Puis personne ne veut être, je dirais, le facteur X qui aurait pu amener COVID à l'école ou à la maison. Mais le docteur Roussin l'a toujours indiqué, il va avoir des cas de COVID. Il y a plus d'une centaine d'écoles au Manitoba qui ont eu des cas de COVID. Et plusieurs écoles où le 2 mètres est existant. Alors, ce ne sont pas seulement des écoles à 1 mètre ou ce ne sont pas seulement certaines écoles. Tout le monde peut être, inclus dans, dans la liste. Alors, mais on continue, nos enseignants continuent, nos directions continuent, puis on appuie, on les appuie du mieux qu'on peut, puis on souligne aussi l'excellent travail de nos parents qui continue aussi d'appuyer. Oui, on a des questions, malheureusement, avec la situation qui change fréquemment. Déjà, on a déjà notre plan si jamais on tombait dans un code rouge.
Ah oui?
On a les quatre plans, c'est juste que on planifie autant qu'on peut planifier. Et lorsqu'on va tomber, si on tombe dans un code rouge, bien, il va falloir quand même suivre les directives du ministère qui vont sortir à ce moment-là, puis les intégrer dans notre plan rouge aussi. Mais on est prêt, c'est juste que
Mais en code rouge, est-ce que ça voudrait dire que les élèves retournent à la maison ou est-ce que l'école serait encore techniquement ouverte?
Ben, la majorité des enfants seraient à la maison.
Okay.
L'école demeurerait ouverte pour les enfants à besoins spéciaux ou les cas où est-ce que nous croyons que l'enfant bénéficierait d'être à la maison. Là. On parle d'un code rouge provincial, si jamais c'était provincial. On a des écoles où est-ce que nos enfants n'ont pas accès à Internet parce qu'il n'y a pas d'Internet tout court.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que c'est plus profitable de venir travailler à l'école dans un environnement réduit avec peu d'élèves? Probablement oui. Alors, on aurait ce système-là, mais majoritairement, je dirais 95% de nos élèves seraient à la maison.
D'accord, d'accord. Maintenant, pour parler justement qu'il y en a qui sont peut-être présentement à la maison au lieu d'à l'école, il y a eu une lettre envoyée aux parents des élèves qui vont au Collège Juriel hier, le 26 octobre, pour dire qu'il y avait un nouveau cas de la COVID-19. Puis que c'était dans les classes de 9e année. On parle ici de 97 et 111, les 21 et 22 octobre. Alors, on a mentionné dans la lettre que ces cohortes-là, les deux cohortes, touchés vont prolonger leur quarantaine, leur isolement jusqu'à la nouvelle date du 5 novembre. Est-ce que c'est seulement ces deux cohortes-là qui sont présentement à la maison? Est-ce que le grade de 9e année, on les recommande d'aller faire l'éducation à distance? Comment ça se déroule de leur côté?
C'est une excellente question parce que les gens ont souvent se posent ces mêmes questions-là. Donc, il faut comprendre que le chef de la santé et les santé régionales, chacun des départements, ont le mandat de nous indiquer à nous si on doit fermer, si on doit isoler, si on doit être en quarantaine. Donc, ce ne sont pas des directions d'école qui, techniquement, ou au moins, qui veulent dire tu es en quarantaine. On doit suivre le protocole. Le protocole, c'est que si un individu, que ce soit un membre du personnel, que ce soit un élève de l'école à qui on a confirmé un cas, la santé va faire ce qu'on appelle le traçage pour voir qui était avec lui ou elle. Lorsque le traçage est complexe et compliqué parce que il y a des mélanges de cohortes où il pourrait avoir eu, comme on a vu au début de la semaine, là, il y a eu une fête à un moment donné dans une maison privée et les enfants sont venus à l'école avec COVID. Donc, le traçage se fait et quand le traçage commence à démontrer que certains groupes pourraient avoir été en contact et on veut éviter une transmission, une éclosion, alors on va demander par mesure de précaution à une cohorte de se mettre en isolement par protection et non pas parce que les gens l'ont. Alors, c'est pas nous qui prenons cette décision-là. Mais une fois que la décision est prise, la direction d'école fait parvenir les documents, puis on met en branle tout ce qu'on appelle là, l'éducation à distance.
Wow! Mais ça ne doit pas être facile de voir contrôler ça si jamais il y a ce mélange-là de cohortes sans qu'on le sache d'avance. Comment est-ce qu'on peut essayer d'espérer de contrôler ça sans que les élèves s'entrecroisent à l'école?
C'est difficile parce que d'un côté, en nous, on avait envoyé notre guide, puis on indiquait aux parents pour éviter les croisements de cohortes.
Mm-hmm.
Il faudrait que votre enfant soit dans sa classe de 8h30 le matin jusqu'à 16h. Et là, au secondaire, on a eu des parents, puis on est transparent et on écoute les parents, puis des élèves qui nous ont plaint, disant, ben, toute une journée, manger dans ma salle de classe, pas sortir. Alors, on a décidé de prendre la décision que, au lunch, nous permettrions aux élèves de pouvoir aller à l'extérieur pour manger, en s'assurant, par contre, qu'ils suivent bien les règles de la santé. Une fois que c'est rendu là, il y a aussi l'option de demeurer à l'école où est-ce qu'on a un endroit pour qu'ils puissent manger. Mais pour éviter les croisements de cohortes, il faut éviter les déplacements de toutes les masses. C'est ça qui est compliqué parce que les élèves du secondaire veulent une vie sociale, veulent continuer à s'amuser. Mm-hmm. Puis souvent, on ne voit pas l'impact que d'être asymptomatique, mais transporteur peut causer par la suite aux autres. Alors, c'est toujours complexe, mais on a pris cette décision-là parce qu'on voulait aussi donner un peu de temps là, de sans masque pour nos élèves où ils pouvaient sortir, sachant que de toute façon, même si on les cloîtrait de 8h30 à 16h, ces enfants-là, ces jeunes adolescents et adolescentes-là, ont une vie sociale le soir, voient leurs amis.
Mm-hmm.
Alors, les cohortes tiennent aussi bien qu'elles peuvent tenir à l'école, une fois que l'école est terminée, les cohortes explosent. Donc, on voit, la fin de semaine, ça va être le Halloween.
Oui, j'étais justement pour dire, j'espère qu'il y a eu un message qui a été envoyé envers les jeunes là, pour dire, OK, faites attention en fin de semaine, ne pas commencer à faire de la fête là, pendant l'Halloween, parce que sinon, oui.
Bien, puis c'est un message qui va partir aujourd'hui. C'est intéressant que vous mentionniez ça, mais le message est bon tant et aussi longtemps qu'on le respecte puis qu'on va dans cette lignée-là. Mais on a des adolescents plus vieux qui, bon, veulent se réunir pour s'amuser, faire des parties. Mais on a nos plus jeunes aussi qui veulent faire du porte-à-porte puis aller chercher les bonbons. Mais alors, c'est complexe parce qu'on n'a aucune idée s'il y a des gens qui sont symptomatiques ou asymptomatiques. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde fasse très attention. Et je sais qu'il y a des parents qui ont décidé que l'Halloween, cette année, ça se faisait en petits groupes, à la maison, plus sur un autre format. Mais on n'y échappe pas. On a vu le docteur Roussin qui a indiqué hier que l'action de grâce a été un déclencheur de plusieurs cas de COVID. Alors,
mais c'est
on a une responsabilité.
Il y a une grande leçon à apprendre là, des autres Manitobains. Là. Donc, c'est ça, il faut faire un grand effort. Mais c'est ça. Ben, merci beaucoup, Alain Laberge, de clarifier toutes ces questions-là, parce que ce n'est un temps assez difficile. Mais on veut quand même remercier tout le monde dans le domaine d'éducation pour tout leur grand travail dans ce temps si incertain. On espère que vous sentez une grande vague d'amour là, qui ça vient vers vous.
Merci beaucoup, on la sent, puis on la partage avec vous.
Ben merci beaucoup encore une fois.